Bonjour chers auditeurs, bonjour, la conversation s'est déjà engagée car j'ai deux personnages très importants près de moi, mais qu'il me soit permis tout de même de vous accueillir, de vous dire que cet été, pour ceux qui suivent l'émission, tout le monde n'a pas besoin de le savoir, je suis là en pointillé puisque je suis à titre principal pour écrire un livre à la campagne, ce qui est impossible à Paris, d'autant qu'il fait une touffeur épouvantable. Je plains les Parisiens, et que exceptionnellement aujourd'hui je suis là pour ce 17 et 18 juin dont nous allons parler. Je serai demain matin au micro d'Antoine de Calza pour parler du 18 juin. Et je me suis offert le luxe d'inviter deux personnages importants. Vous d'abord, monsieur l'ambassadeur
bonjour.
Xavier Driancourt, bonjour. Je dis vous d'abord parce que j'apprends que le protocole place les ambassadeurs avant les généraux. C'est une question d'appréciation. Et le général Emmanuel de Richouf, qui n'est pas besoin de présenter, encore que je trouve que vous fassiez fort rare sur Radio Courtoisie, mon général.
Je ne suis pas invité.
Alors, ah bon,
donc,
bon.
Je ne suis pas invité, donc je ne viens que si je suis invité. Vous savez, moi, je ne suis pas là.
Vous dire que vous habitez en province, vous aussi, au Gros de Roi.
Oui, mais j'étais à Paris un certain nombre d'années. Et
voilà,
heureusement, vous rachetez en quelque sorte, vous faites pardonner.
Nous allons le faire, nous allons le faire. L'un et l'autre, d'ailleurs, tous les deux, vous venez de faire paraître deux livres, Xavier Driancourt. Vous étiez venu, je crois, au mois de mars,
oui,
pour parler d'un précédent livre, qui est la relation de votre ambassade, de vos deux ambassades. C'est rare qu'un ambassadeur soit à deux reprises dans le même poste. En Algérie, vous y avez été à deux reprises. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'énigme algérienne »,
oui,
je crois,
oui,
dont vous nous aviez parlé. Et vous nous aviez annoncé un prochain livre qui paraît ces jours-ci.
Qui est paru la semaine dernière.
Algérie, alors cette fois chez un autre
L'Algérie
éditeur.
L'Algérie 1830-2026,
voilà.
Vérités et légendes.
Vérités et légendes chez Perrin, je crois.
Chez Perrin, voilà. Aux éditions
et le
Perrin.
Le précédent était à l'Observatoire.
À l'Observatoire.
Si je me souviens bien.
Oui.
Vous étiez venu nous en parler aussi pour TVL. Et peut-être qu'il faudra prolonger ces conversations, parce que vous occupez une place importante maintenant sur cette question de l'Algérie et à travers elle, d'une sorte de nonchalance, pour utiliser ce mot-là, comme beaucoup de services publics, hélas, du Quai d'Orsay, notamment sur le sujet de l'Algérie.
Mmh.
Vous auriez pu faire comme beaucoup d'ambassadeurs, je dois vous dire que je vous admire pour ça, vous taire, déplorer, vous lamenter. J'en connais beaucoup comme ça, les ambassadeurs et ambassadeurs dignitaires, ambassadeurs de France, qui se lamentent dans leur coin. Mais non, vous, Xavier Driancourt, vous foutez le pied dans le plat, pardon de l'expression un peu triviale, et vous dites ça peut pas continuer comme ça, l'Algérie nous humilie d'une certaine façon.
Nous mène par le bout du nez, en quelque sorte.
Voilà. Et là, vous rétablissez quelques vérités dans cet ouvrage.
Ouais.
Donc je conseille à tout le monde la lecture parce que on dit des bêtises sur l'Algérie, d'où votre sous-titre « Vérités et légendes ». D'abord, il n'y avait pas d'Algérie avant l'arrivée des Français. Il y avait
voilà, c'est tous ces sujets-là que
j'aime.
N'exergue.
Je crois que d'Alger à Oran, il fallait prendre le bateau parce qu'il n'y avait même pas de chemin entre Alger et Oran. Oran n'avait pas du tout l'idée de tout faire partie de l'Algérie qui n'existait pas à ce moment-là.
Entre Oran, Alger et Beaune.
Oui. Et il faut dire que la guerre n'a pas commencé en 1830 d'une certaine façon parce que ce soit Oran, je continue à dire Oran, ou Alger. C'était des ports terribles d'où partaient des petits bateaux qui traversaient la Méditerranée et qui allaient s'attaquer quelquefois à la côte orientale de l'Espagne, souvent à la côte méridionale, au Var, Alpes-Maritimes. Enfin, il y en a beaucoup de témoignages dans l'architecture, encore des forts, comme par exemple Ramatuelle, dont le nom d'ailleurs est arabe, plus ou moins, je crois, dans le Var. Et qui volaient ce qu'ils pouvaient, notamment des femmes, qui pratiquaient...
Aujourd'hui, ce sont des bateaux remplis de migrants, hein,
oui.
De subsahariens.
Ça, c'était l'inverse. Ils ramenaient des femmes qu'ils revendaient dans le monde arabe.
Oui, oui, oui.
C'était des plaques tournantes du trafic d'esclaves. Et un beau jour, un bon roi, Charles X, dont je continue à penser beaucoup de bien, a demandé à un de ses proches, Luc d'Aumale, d'aller pacifier ses... C'est port, c'est comme ça que ça a commencé.
Oui, c'est une des raisons, effectivement.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, parce que déjà Napoléon, comme Louis XVIII, avait de vagues idées d'intervention en Afrique du Nord et avait fait repérer la côte algérienne où, en 1830, le général de Bourmont a accosté et est arrivé... pour prendre Alger le 5 juillet 1830.
Et a libéré, je crois, beaucoup d'esclaves.
Oui, et puis il y avait alors des histoires de dettes de la Révolution française. Quoi. Il y avait un mélange de différentes raisons. Mais encore une fois, quand je l'explique dans ce livre, il n'y avait pas de plan préconçu de colonisation. C'est un peu la stratégie qui a suivi la tactique, si je puis dire. Il y a eu la prise d'Alger, et puis voilà, après, qu'est-ce qu'on fait ?
La colonisation n'était pas au programme, d'ailleurs, je rappellerai sans cesse que nos bons rois...
Et après, c'est Louis-Philippe qui a reçu Alger dans les bras, et qu'est-ce qu'on fait ?
Il a fallu pacifier, oui.
Et en 1848, rebelote Napoléon III, la Deuxième République, puis Napoléon III, hérite de ce qui s'appelait l'Algérie depuis 1836 et hérite surtout d'Abdelkader, prisonnier encombrant. Qu'est-ce qu'on fait ?
Et alors, il avait un grand projet, Napoléon III, qui est le royaume d'Algérie.
Sur lequel je reviens, parce que je trouve que c'est un épisode tout à fait
très
méconnu.
Très content que vous l'explicitiez.
Et d'ailleurs, en France, c'est méconnu, la politique de Napoléon III, la politique économique, sociale, Paris, sous Haussmann. Napoléon III a été occulté par la défaite de Sedan et sa politique en Algérie, dans le fond, c'est ce que De Gaulle a voulu lui faire en 1958. C'est-à-dire, un équilibre entre les Français musulmans et les colons.
Alors, je vous interromps, monsieur l'ambassadeur. Emmanuel de Richouf peut nous parler d'Algérie, bien que je pense que vous ne connaissiez pas l'Algérie.
Pas du tout.
Mais enfin, il y a toujours quelque chose entre les militaires et l'Algérie. Vous pourrez mettre votre grain de sel. Ma théorie, une manière de voir les choses, c'est que c'est la République, la Troisième République, monsieur l'ambassadeur, qui a lancé les colonies de peuplement.
Oui, oui.
Et c'est très intéressant.
Il y a eu beaucoup d'Alsaciens.
Oui, parce qu'après, il a fallu se revancher d'une certaine façon.
Beaucoup d'Alsaciens, de Maltais, d'Espagnols, d'Italiens qui sont venus à la fin du 19e siècle.
Je poursuis sur mon idée. Ce n'est pas étonnant que les choses soient passées comme ça, en théorie. Lorsque la Troisième République lance les colonies de peuplement, il n'y en avait pas avant, en réalité.
Il n'y en avait pas.
Et je crois que c'était une bêtise. Elle a eu affaire à l'opposition très vive des monarchistes.
Oui.
Ça aussi, c'est très intéressant.
Oui, oui.
Car il n'entre pas dans la conception du monde des monarchistes. Et on retrouvera ça avec Charles de Gaulle, qui était d'inspiration quand même très monarchiste, à mon avis. C'est ce sur quoi j'écris en ce moment, d'ailleurs. De Gaulle et le roi de France. Et la monarchie. C'est la République qui est colonisatrice.
Oui.
Au nom de la supériorité, de la race blanche, Ferry et toutes sortes de bêtises.
Des valeurs universelles, comme on dit aujourd'hui. On parlait de la civilisation.
Oui. Alors que et pareil pour la Cochinchine, ce qu'on appelait la Cochinchine, les crédits. Le duc de Breuil, qui était chef de l'opposition monarchiste, très puissante au début de la Ve République, refusait les crédits de colonisation en disant on n'a rien à faire en dehors de l'Europe.
Il y avait l'idée qu'on utilisait l'armée, on l'éloignait dans le fond
de l'essentiel
de l'Europe, de la frontière, de l'Allemagne. La ligne bleue des Vosges. C'est qu'est-ce qu'on allait faire en Algérie pour épuiser des...
Et puis qu'est-ce qu'on allait faire au Tonkin, etc.
Encore davantage.
Les monarchies, c'est très clairvoyant, et d'ailleurs la monarchie française, je le dis, et encore on le retrouvera chez De Gaulle, beaucoup n'étaient pas existentialistes comme ça l'est devenu aujourd'hui, comme c'est devenu très à la mode, très essentialiste. C'est-à-dire que la France était la France et elle n'avait pas à se mélanger avec ce qui n'était pas elle.
Et puis c'est seulement quelle sagesse.
La monarchie n'a pas colonisé.
Oui, et c'est seulement au tournant du 20e siècle,
du 19e et 20e.
Le mythe de l'Europe civilisatrice... Oui. Est né en France et où il y a eu une certaine glorification de...
Combien délétère, parce que ça vous est retombé sur le nez.
De la colonisation.
Oui. Passionnant votre ouvrage, comme vos trois précédents, je crois que c'est votre quatrième, si je comprends bien. Reportons-nous à votre émission, notre conversation sur TVL pour connaître toute votre carrière, parce qu'on vous résume à vos ambassades à Alger, mais vous fûtes aussi ambassadeur en Australie, enfin vous avez... une carrière diplôme. Vous avez été directeur du personnel, ce qui est hautement stratégique au Quai d'Orsay. Et vous avez toute une carrière diplomatique. Et toujours, je sais que vous êtes comporté en national. C'est formidable. D'ailleurs, j'ai appris que madame, votre femme, était la nièce du professeur Robert Debré et par conséquent Michel Debré. Oui. Enfin, vous avez bon sens, vous saurez mentir. Ce livre, j'espère qu'il est en plus très illustré, je crois, de votre Algérie, et promis à une belle lecture d'été, je pense. Voilà. Il y a de la nostalgie en même temps, et puis de l'information. Voilà, mon général, comment refaire nation? Vous, c'est, il y a 15 jours que ce livre est paru, nous sommes tout à fait dans le frais, si je puis dire, malgré la canicule. Les solutions du général des banlieues. Comment refaire nation, Emmanuel de Richouf.
Vaste programme.
Alors d'abord, le général des banlieues, oui, j'ai appris, pour moi vous n'êtes pas du tout le général des banlieues, mais j'ai appris qu'on vous surnommait comme ça. Je sais que vous avez participé à une belle opération à la gloire des armées françaises, Colvézi, ça ne vous rajeunait pas, ça dit à propos un peu votre âge. Mais vous avez aussi une carrière, elle aussi, très belle, et tout à coup... Vous vous investissez, si on peut dire, vous vous consacrez aux banlieues, d'où votre surnom, général des banlieues, au début de ce siècle, aux alentours de 2000.
Oui, en 2005, oui, bien sûr.
Qu'avez-vous voulu faire?
Qu'est-ce que j'ai voulu faire quand j'arrivais au bout de... Si vous voulez, j'ai eu une carrière, comme vous venez de l'évoquer, assez extraordinaire, puisque outre le fait d'avoir sauté sur Colvézi, qui n'était qu'un épiphénomène à l'époque, j'ai eu 9 opérations extérieures à me reprocher, et donc dans tous les grades et dans toutes les fonctions... Oui, à me reprocher, enfin, c'est une façon de parler.
Et
9 opérations extérieures, et j'ai eu la chance d'avoir des fonctions opérationnelles comme capitaine, colonel, y compris général de brigade. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, dans mon dernière affectation comme adjoint du gouverneur militaire de Paris, je me suis posé la question de dire en quoi pourrais-je être utile. C'était l'époque 2005, grosso modo, l'époque où les derniers soldats de l'armée française quittaient leur uniforme d'appeler du contingent pour passer être opérationnel, enfin passer véritablement dans l'armée de métier. Oui. Et je me suis posé la question comment faire pour que la nation n'oublie pas ses soldats. Comment faire pour que la nation soit véritablement l'armée et la nation fassent une indivisible et puis qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller de l'avant avec sur une autre vision des choses. Et donc j'ai eu la chance d'être en tant qu'adjoint du gouverneur militaire de Paris, de m'occuper des réserves citoyennes, c'est-à-dire les Françaises et les Français à Paris et la région parisienne qui voulaient donner de leur temps Non sous l'uniforme parce qu'il n'avait pas le temps, oui. Mais autrement, c'est-à-dire finalement ce lien armée-nation. Et puis j'avais dans mon escarcelle également les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, qui étaient des Français de fraîche date, plutôt dans les quartiers populaires, et qui cherchaient désespérément le moyen d'amener les jeunes délinquants ou pseudo-délinquants ou pré-délinquants les amener dans le giron de la France. Ils étaient eux-mêmes très très franco, très, j'allais dire, très français nationalistes, quoi. Et donc,
c'est rare un général qui prend à bras le corps la question sociale.
C'est peut-être rare, mais c'est pas si rare que ça. Moi, ça a toujours été mon. Oui. Bah, un général, il doit s'occuper. Quand il s'occupe de sa troupe, il s'occupe également des familles. Enfin, il essaie de s'occuper de tout le monde parce que quand vous allez au combat, si l'arrière tient, c'est bon, mais si l'arrière s'écroule, c'est pas très bon.
Faut s'en soucier.
Et donc l'idée que j'avais, si vous voulez, c'est de me poser la question. J'ai eu la chance d'être à la tête de légionnaires pendant 9 années, et je me disais... De légionnaires pendant 9 ans de ma vie. Et donc, je me suis dit, comment se fait-il que la France, qui s'enorgueillit d'avoir les meilleurs soldats du monde, ce qui est vrai, parce que les légionnaires sont considérés comme étant les meilleurs soldats du monde, tout le monde nous envie,
on sait faire... La réputation des armées françaises est grande un peu partout dans
le
monde.
Je veux dire, mais la Légion particulière, et vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, depuis 1830, grosso modo, on sait... former pour être les meilleurs soldats du monde des étrangers venus en France. Mmh. Voilà, on sait le faire. Alors comment se fait-il qu'on ait les meilleurs soldats, des meilleurs soldats français, des meilleurs soldats étrangers, on les forme pour être les meilleurs soldats, et qu'à côté de ça, dans nos quartiers populaires, on a 20, 25 nationalités à l'époque, il y a 20 ans, on ne soit pas fichu d'en faire les meilleurs citoyens au monde.
Alors là, vous mettez les pieds dans le plat et je vous pose tout de suite la question, parce que, d'ailleurs c'est la question que j'ai posée pour résumer cette émission, sur qui la France peut-elle compter. Vous pensez que le désordre dans les banlieues, ou l'absence d'ordre, ou l'absence de maîtrise du territoire, d'ailleurs, il y a un de vos chapitres qui s'appelle... je ne le trouve pas... « Faire face à l'abandon de nos territoires ».
Oui, monsieur.
C'est un de vos chapitres de ce dernier livre. Il faut que je mentionne aussi un livre précédent. Il s'appelait « Avant qu'il ne soit trop tard ». C'était
c'est après la fameuse lettre des généraux que j'ai signée comme un seul homme, et je suis ravi d'avoir signé. Voilà. Donc,
la lettre des généraux. Alors, j'ouvre une parenthèse. Vous êtes aussi, j'ai oublié de vous présenter, parce que pour moi ça compte beaucoup, vice-président
de l'association Place d'Armes, oui, tout à fait.
Qui reprend du poil de la bête, si je puis dire.
Qui reprend du poil de la bête, qui n'a jamais cessé d'avoir du poil de la bête, mais là...
Qui avait secoué le cocotier en 2021,
Oui, c'est ça, avec la lettre des généraux, là, c'est ce qui a lancé Place d'Armes. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, si vous voulez, l'état, j'allais dire, catastrophique de notre pays, il y a beaucoup de gens qui viennent à Place d'Armes, parce que Place d'Armes, ce sont des anciens militaires, pas que d'ailleurs, beaucoup de civils, mais on a une colonne vertébrale, on est fiers de la France, on a dépensé des années de notre vie pour défendre la patrie, et bien entendu, les Françaises et les Français qui sont orphelins finalement de leur pays, viennent chez nous. Donc voilà, je conseille, puisque j'ai le micro, vous me laissez parler, et vous m'avez accueilli, n'hésitez pas à venir chez Place d'Armes, et vous y serez bien accueillis.
Voilà. Vous avez un site très actif.
Oui, très actif, un site qui est très bien fait, enfin je vante la marchandise qui n'est pas la mienne, enfin je vante ceux qui font, parce qu'ils font ça très bien, et vous avez sur ce site des articles qui paraissent régulièrement de bonnes factures sur la politique, sur la France, la dissuasion, etc.
Nouveau président, Gérard Hardy, qui est un sous-officier, je crois.
Qui était sous-officier, béret rouge, et qui est très très bien. Voilà, enfin, je ne vais pas critiquer mon président, de toute façon, mais c'est vrai que ça va très fort. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 2 mois maintenant, nous avions Place d'Armes à organiser une session du côté de Montauban d'une journée où il y avait des auteurs militaires, des conférenciers, etc. Il y a eu quand même 400 personnes, donc en race campagne. Donc on sait faire, quoi, et on réunit des gens qui cherchent, ils recherchent tous quelque chose qui transcendent un petit peu leur vie de tous les jours,
qui puissent dépasser l'espèce de
tristesse qui nous empare tous les jours, quoi.
D'ailleurs, nous sommes rencontrés il y a un mois, on peut le dire, général, je vous connaissais de nom comme tout le monde, mais je ne vous avais pas rencontré avant ce dîner organisé par des gendarmes.
Oui, oui, tout à fait.
Très combattant, une belle association.
Heureusement, il y a
des gendarmes qui commencent à relever le gant.
Mais vous savez, en France, heureusement, il y a des ce que je dis tout le temps, puisque j'ai la chance de passer également sur CNews pour défendre mes idées, essayer de faire passer mes idées.
Vous avez vu cette semaine.
Je témoigne.
Vous deux, je témoigne
que rien n'est perdu, rien n'est perdu et qu'il faut s'appuyer. Il y a des gens formidables à tous les niveaux, partout, dans tous les domaines, et que c'est véritablement sur ces personnes-là qu'il faut s'appuyer.
Alors, si je peux me permettre de poser une question. Est-ce que finalement ce que l'on voit, ce que l'on entend, par exemple après les dernières élections municipales avec des gens, je ne cite personne ni aucune ville, mais des gens dans la proche banlieue nord de Paris qui critiquent la politique.
Il y en a plusieurs en plus.
Il y en a plusieurs, qui récemment ont dit que siffler la Marseillaise c'était une action normale. Est-ce que ça, c'est une image complètement déformée
Non, monsieur l'ambassadeur, vous avez raison, ce n'est pas une image déformée, c'est une image réelle. Comme je disais, une image réelle qui ne fait pas honneur à nos politiques.
Oui.
Et c'est-à-dire que continuez comme ça, vous creusez votre tombe. Tous ces hommes politiques qui, à l'Assemblée nationale, nous présentent une image catastrophique de ce que c'est que la démocratie et ce que c'est que la vie politique, ils creusent leur tombe. Comment voulez-vous que les Français, qui sont majoritairement, j'allais dire, pour leur patrie, pour la nation, pour la France, continuent d'accepter de la part de leurs élus, qui sont rémunérés par la République, un tel comportement.
J'en reviens à la question des banlieues, et je voudrais développer un raisonnement que j'ai plusieurs fois tenu, et ce n'est pas la première fois que je le tiens à ce micro, mais je voudrais vous faire réagir l'un et l'autre là-dessus. Il se trouve qu'en France, bon, j'ai peut-être une pente un peu monarchiste, c'est un fait, mais la République ne tient pas debout. La Première République a fini dans la terreur, la Deuxième a fini dans l'anarchie, la Deuxième République, la Troisième dans un désastre militaire sans pareil dans notre histoire jusque millénaire. Ouais. La Quatrième République a fini, on peut dire, dans le ridicule, parce que les politiciens n'avaient qu'une peur, c'est que les généraux débarquent et les foutent à la Seine. Et chaque fois, la France s'est rétablie par un coup d'État. C'est le 18 Brumaire, Bonaparte. C'est le coup d'État du 2 décembre Napoléon III, le neveu du précédent. C'est le coup d'État du général de Gaulle. Alors nous célébrons aujourd'hui.
Et puis il y a eu l'échec du comte de Chambord.
Ah,
échec pour des peccadilles.
Oui, je crois que on pourrait en parler longtemps. Je sautais sur le 18 juin parce que nous le célébrons et je suis content de le célébrer avec vous de cette façon. Enfin, nous sommes le 17, mais l'émission est rediffusée demain soir, jeudi 18. C'est un magnifique coup d'État. Ce qu'on célèbre un 18 juin, on célèbre un coup d'État. Je suis désolé parce que quand un secrétaire d'État s'en va dans un pays étranger...
Vous voulez nous dire quoi, là?
Et vous savez très bien ce que je veux vous dire.
Et qui se répète le 4 juin 1958.
Et qui se répète en 58. Voilà.
Par le même homme.
Le même homme. Mais moi, je trouve qu'il y a coups d'État. Il y a de mauvais coups d'État. Il faut éviter les coups d'État. Mais quand les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Vous voyez ce que je veux dire? Comme dit le sapeur Camembert. Le 18 juin, quand un secrétaire d'État...
Depuis
trois semaines.
Oui.
Général depuis quatre semaines.
À titre temporaire.
Part à l'étranger et dire la France, c'est moi. Ça, c'est sublime, parce que la suite a quelque chose de sublime. Non pas simplement contre les... Enfin, je le dirai demain, mais... contre l'occupant allemand, mais c'est grâce au général de Gaulle qu'on a échappé à la tenaille en 44, entre les communistes et l'atlantisme des anglo-saxons, enfin, la mainmise des anglo-saxons. Là, le maréchal, pour qui j'ai quelques affections de temps en temps, il était absolument inopérant face à Churchill, Roosevelt, et face aux communistes. La France aurait été dépecée et privée de sa souveraineté, comme l'Italie l'a été pour d'autres raisons, parce qu'elle n'a pas eu de Gaulle. Donc, de Gaulle magnifique de ce point de vue-là, mais ça procède d'un coup d'État. Alors, je fais l'éloge du coup d'État devant un général, vice-président de Place d'Armes. Je ne vous demande pas de me répondre, mais votre livre y répond, général. Quand vous dites « Conduisons la révolution des esprits et des cœurs », Bougeons-nous, Fissa. Qu'est-ce que ça veut dire, mon général, bougeons-nous, Fissa? C'est très bien de faire des essais, mais vous n'avez pas une épée quelque part, non?
Bon, non, j'ai pas d'épée. Je pense que, si vous voulez, le fait de dire j'attends les armées, bon, je sais pas.
Enfin,
je...
Mais au moins...
Non, mais attendez, j'essaie de répondre aux questions calmement. D'abord, je pense que, comment dirais-je, cet ouvrage que j'ai écrit à quatre mains avec un formateur de banlieue, oui, qui a lui-même été poignardé, salement poignardé, qui est Kevin, là, que j'ai côtoyé pendant...
Qui vous dédiait le livre.
Oui, le livre.
Comment refaire nation.
Voilà, comment refaire nation.
La caméra.
Et je veux dire par là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. C'est-à-dire que le pays, tout pays ne peut rien faire s'il n'a pas sa jeunesse avec soi, avec lui. Or, aujourd'hui, je le dis parce que je l'ai senti, je le vois, comme tout le monde, comme vous et moi, nous avons plusieurs jeunesses. Il y a la jeunesse des villes, il y a la jeunesse des bien-pensants, il y a la jeunesse des quartiers, il y a la jeunesse qui sont pas mal là, toute la jeunesse qui est dans les campagnes, etc. Tous ces jeunes-là sont français, mais ne sont pas la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait en telle sorte qu'on les a séparés, on a des espèces de communautés qui ne se mélangent pas. Et je crois que pour que le pays vive et puisse avoir des rêves, puisse avoir des stratégies, puisse avoir des politiques, puisse avoir, pour vivre vraiment, tirer la chance à zéro, il faut que ce pays, ces jeunes-là, fassent nation, d'où ce titre. Et donc, pour répondre à votre question,
C'est amusant d'ailleurs, vous parlez de deux piliers qui me vont droit au cœur. La langue et l'histoire.
Bah oui, bien sûr.
C'est formidable. Il y a un chapitre, nos deux piliers, la langue et l'histoire.
Bah oui, bien sûr. C'est ce que nous avions avec Kevin. Nous avions. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Hein. Oui. La langue, je reprends mes légionnaires. Légionnaires, on en fait les meilleurs soldats du monde. Et en 6 mois, ils apprennent le français.
Ils parlent français.
On n'est pas foutus dans l'éducation nationale d'apprendre le français à nos jeunes immigrés. Quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Oui. Il y a des choses que je ne comprends pas.
Je trouve que ça, c'est. Je ne m'étais jamais posé question dans les termes que vous utilisez, mais c'est vrai que le paradoxe entre le fait qu'on réussit à former à partir d'étrangers qui ne parlent pas français les meilleurs soldats du monde, qui défilent chaque année le 14 juillet et qui sont les plus admirés souvent, et que nous ne soyons pas capables de faire la même chose avec l'éducation.
Et pour rebondir,
l'armée beaucoup plus que n'importe quel service.
Oui, et donc vous reveniez sur la langue.
C'est quelque chose qu'il faut dire et souligner.
Oui, la langue et l'histoire. L'histoire, pourquoi l'histoire? Ces jeunes français qui crachent sur la France et qui honnissent la France, ils savent pas que leurs grands-parents étaient dans l'armée d'Afrique.
Oui.
L'armée d'Afrique, c'était voulu par De Gaulle, c'est quand même l'armée d'Afrique qui a fait la conquête, le Maghreb, l'Italie, le débarquement de Provence, on est monté, etc. Ce sont leurs grands-parents. Et ils ne savent pas. Quand vous leur dites ça aux jeunes, ils disent « Ah, on ne savait pas ». Et personne ne leur dit.
Oui.
Mais soyez fiers. Vous avez vos grands-parents qui étaient qui capitaine, qui adjudant, qui caporal, etc.
Vous avez sciemment organisé sabotage de l'éducation nationale fait vraiment partie
plan
pour liquider cette puissance embêtante pour tout le monde, c'est-à-dire la France.
Oui, vous avez certainement raison, mais moi, si vous voulez, je me place sur le terrain, sur ce que j'ai vu sur le terrain, ce que j'ai fait pendant 15 ans, et je me dis, c'est véritablement, je sais ce qu'il faut faire.
Alors, je reviens au point de départ, après ce détour par Place d'Armes et l'éloge hindu, ou tout au moins clandestin du coup d'État, parce que je vais me faire arrêter un jour. Vous parlez des banlieues, mais tout votre livre semble indiquer que l'armée a une responsabilité directe dans le rétablissement de l'ordre dans les banlieues.
Oui.
Ce n'est pas un coup d'État, mais c'est déjà un
pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, le livre
ça, c'est
assez complet.
Livre, oui.
Complet. Donc évidemment, les armées sont présentes. Les armées, pour moi, doivent être présentes à deux titres. Le premier, c'est avec des réservistes, des anciens militaires, etc., à qui on peut donner, j'allais dire, des fonctions, non pas régaliennes, mais des fonctions de formation, d'éducation, etc., etc., avec des formateurs de banlieue, avec un amalgame, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, avec un amalgame, quelques sous-officiers, et puis des formateurs de banlieue, et cet amalgame est assez enrichissant, parce que les uns apportent la rigueur, et puis la vision, la rigueur et la vision, et les autres apportent la connaissance. Et donc, on a quelque chose d'assez éclairant et assez intéressant pour la suite.
Alors, nous allons entendre un petit bobino court, et ensuite, on passera à peut-être un aspect un peu plus gras ou grave J'aimerais, puisque j'ai un général et un ambassadeur avec moi, parler un peu politique. Qu'est-ce qui peut encore quelque chose pour la France ? Est-ce que ce sont les Français ? Est-ce que c'est l'armée française ? Est-ce que c'est une réorientation de notre diplomatie ? Je crois beaucoup à la nécessité de réorienter notre diplomatie, qu'une bonne partie de nos malheurs viennent de ce qu'on s'est foutu depuis 1945 dans les bras de nos pires ennemis, c'est-à-dire les puissances atlantiques. C'est ceux qui nous voulaient du mal, et c'est celles auxquelles, alors qu'on avait, à mon avis, bien d'autres alliances. Et l'année prochaine, l'ambassadeur Driancourt posait la question, nous serons peut-être en face de ce qui peut s'appeler une guerre civile, enfin, qui à bas bruit s'avance comme une guerre civile. Et après ce Bobineau, j'aimerais qu'on apporte ces questions un peu plus chaudes.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, je mets les pieds dans le plat. L'ambassadeur Emmanuel Richouf nous disait, c'est un peu ce vers quoi conduit ce dernier livre. Vous avez fait beaucoup d'essais, il y en a 8 ou 10 en général.
Non, j'ai écrit sous l'uniforme. Je suis le seul officier d'actif à avoir écrit sous l'uniforme.
La muette parle.
Oui, mais ce qui m'a valu quand même 6 ans de purgatoire. Quoi. Donc, je veux dire, non pas par les civils qui m'avaient autorisé, parce que c'est aussi incroyable, vous faites une. Quand vous voulez écrire, vous faites une demande au ministre.
Oui, ça, vous n'avez pas froid aux yeux.
Au ministre, ça m'a valu. Mais c'est les militaires qui sont rebellés derrière, qui sont vengés. Et donc, ils m'ont fait lanterner.
Cassé.
Donc, pendant 6 années. Je ne regrette rien, parce que finalement, j'étais libre de mes propos tout le temps.
Et vous êtes quand même général de division.
Oui, c'est pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. Mais j'aurais
pu être chef d'état-major des armées.
Pourquoi pas ?
peut-être qu'après le coup d'État, vous le serez, mon général.
Il n'y a pas de coup d'État à venir.
Vous n'en savez rien. Regardez l'histoire de France. Je ne plaisante qu'à moitié. Vous dites, c'est aussi à l'armée d'intervenir dans les banlieues. Ça, je crois qu'un consensus...
C'est un thème controversé, ce que vous dites.
Et c'est
là.
Un thème controversé. Je pense que vous n'y seriez pas opposé, monsieur l'ambassadeur.
Non, mais j'aimerais justement voir
le travail du gouvernement algérien dans nos banlieues, justement.
Vous avez vaguement évoqué les pistes que souligne le général de Richouf, mais quelles sont ces pistes, quoi, moi qui n'ai pas lu votre livre?
Alors, si vous voulez,
cette forme d'intervention qui, en tant que telle, est déjà très critiquée, et y compris par beaucoup de militaires qui disent « c'est pas le rôle de l'armée de faire ».
Alors, vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, en ce qui concerne les militaires, sauf que l'armée, elle est là pour sauver ses citoyens, elle est là pour défendre ses citoyens. Oui. Quand la maison brûle, et c'est le cas, aujourd'hui, pourquoi, comment pouvez-vous penser l'Ukraine? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut peut-être réfléchir derrière. Donc, moi, j'ai deux façons de voir les choses. La première, c'est les armées interviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des sous formes, comme j'ai dit, avec des civils, enfin des militaires à la retraite, enfin des militaires qui ont quitté et qui font véritablement un comment je vais pas énumérer ça, mais qui font un job sur toutes les régions, toutes les régions, etc., pour montrer que le gouvernement reprend en main l'éducation, la formation. Et puis la deuxième chose, s'il faut s'attaquer là à quelques-uns des 2000 quartiers qui échappent à la France. Il faut s'attaquer sur le dur. Et ça, vous mettez les armées. C'est-à-dire que je promeus...
Et ça, vous mettez les armées.
Je dis, faites tenter l'affaire sur 10 quartiers, les plus trucs, et là, vous coiffez les quartiers avec des militaires. Une compagnie, 150 hommes, vous coiffez le quartier pour faire deux choses. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre. Il s'agit de faire deux choses. Un, c'est restaurer la paix. Et restaurer la paix comment? C'est-à-dire pendant le quartier, eh bien faire nuit et jour, des patrouilles, etc. Mais dans cette bulle sécuritaire, vous allez faire un audit sécuritaire avec la gendarmerie, les impôts, les douanes, etc., etc. pour voir qui fait quoi, où passe l'argent, etc. Et puis parallèlement à ça, vous faites un audit social. Pourquoi les gens ne travaillent pas? Pourquoi ils ne vont plus à l'école? Pourquoi ils n'ont pas appris le français? Pourquoi, etc. Et dans le même temps, si vous voulez, vous avez, l'agrégation des deux signaux, en quelque sorte fort, vous allez sur un an positionner ou placer ou faire en sorte que, progressivement, on puisse restaurer la vraie vie. La vie sociale, la vie économique, etc. En région.
Mon général, les Il y a une raison que vous oubliez pour faire intervenir l'armée. Vous en avez cité beaucoup, mais je pense qu'elle est dans la tête de Xavier Driancourt, qui connaît mieux que personne. Et là, ça constitue la guerre, en réalité. D'où la légitimité d'une intervention des armées françaises. Les tentatives et même les manœuvres de déstabilisation par un gouvernement étranger, qu'est le gouvernement algérien, d'une partie des territoires français. Vous nous aviez appris que le nombre de consulats, qui sont presque des postes avancés de guerre, on peut dire, avec une fonction qui est très militaire, des consulats d'Algérie qui se comportent comme des postes avancés. Oui. Il y en a 21 maintenant, 22, alors qu'il n'y a 20, que 3 consulats de France en Algérie, il y en a 21 ou 22.
Il y en a 20. Après qu'il y en ait eu seulement 15, puis 18,
consulat.
C'est M. Darmanin, pour ne pas le nommer, ministre de l'Intérieur, qui a facilité l'octroi de 2 consulats supplémentaires au gouvernement algérien, sans aucune contrepartie.
Et qui sortent un peu de la loi, parce qu'ils décernent des billets, des papiers très ambigus, ces consulats.
C'est ce que je dis souvent, je crois que le problème aujourd'hui, un des problèmes diplomatiques ou politiques généraux, c'est que nos autorités vivent encore sur le logiciel qu'était le logiciel Bouteflika, si je puis dire. Alors qu'on n'a pas réalisé que le gouvernement algérien actuel n'est pas le successeur ou l'héritier
de
Bouteflika. C'est un autre modèle, un autre logiciel qui s'inspire de Erdogan, c'est-à-dire utiliser, instrumentaliser
la communauté. Oui, qui est presque conquérant, j'exagère si je dis conquérant, je sais bien.
Algérienne en France. Et ça, on ne l'a pas bien réalisé au sommet de l'État. Oui. Que Tebboune, dans le fond, il a réalisé qu'il disposait en France d'une énorme arme, une armée, avec 5, 6 millions d'Algériens, de Franco-Algériens, de Français d'origine algérienne.
C'est sur ce point qu'il y a un aspect international qui vous justifie.
Et donc, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou qui existait moins. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté politique de la part de l'Algérie, vous l'avez dit, en signalant le nombre de consulats qu'ils ont ouverts, d'instrumentaliser, de contrôler cette communauté algérienne.
Et de s'opposer à l'exécution des OQTF, en plus.
Je suis allé faire une conférence à Laval il y a quelques mois, et le consulat de Rennes, le consulat d'Algérie à Rennes, a menacé le maire. Si je venais faire une conférence, ils organiseraient une manifestation à ma venue. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec Boualem Sansal.
Qui organiserait
le consulat.
Le consulat lui-même.
Oui,
on est à l'organisation d'une manifestation
dernière,
par un consulat, il faut le dire.
Pas plus tard que
si
la semaine dernière, j'étais à Belfort avec Boualem Sansal et Arnaud Benedetti, que vous connaissez. Nous faisions une conférence avec Boualem Sansal.
On en fait une ensemble.
Et il y avait des sbires du consulat d'Algérie à Besançon qui étaient là pour voir qui venait et en particulier quels étaient les Français ou les Algériens qui venaient.
Une grande extension de la mission des consulats.
C'est un phénomène assez nouveau. Et je pense qu'on retrouve aujourd'hui dans les banlieues, j'imagine, il y a des gens qui veulent vous empêcher de faire ce que vous faites.
Oui,
parce
c'est pas grave.
Qu'ils considèrent que c'est leur territoire.
Ça n'empêche pas de le faire.
Ça n'empêche pas de le faire. Moi, je veux revenir sur 2 choses. La première, c'est les armées dans les banlieues. Les armées dans les banlieues, on va rester 107 ans. Elles vont rester le temps qu'il faudra pour permettre à la police de revenir. Ça fera 3 mois, 4 mois, pas de problème
mois.
Ça. Oui. Je veux dire, on le fera le temps qu'il faudra, il faut. Mais ça demande une préparation, dans le livre, vous verrez, il y a une préparation dans les années, etc.
Oui, votre livre est très opérationnel.
Je sais ce qu'il faut faire.
Comment faire,
Ensuite, je veux dire que par là, aujourd'hui, vous avez 2000 quartiers qui échappent aux lois de la République, c'est quand même énorme. 2000 quartiers, ça représente 10% de la population. C'est-à-dire que 10% de la population, qui espèrent intégrer la République française dans son entité, mais qui sont empêchés par les bandes qui les checkpoints. Et donc, ils se disent, la République ne nous défend pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va basculer du côté des malfrats, parce que comme ça, on est payé, etc.
Voilà.
Et donc, que fait la République ? Pas grand-chose pour l'instant. Alors, je reviens pour ce que vous disiez, là, monsieur l'ambassadeur. Je vous suis tout à fait sur les menaces que vous avez reçues ou qu'on reçoit. Le problème, mais attendez, on est quand même la République. On est quand même la République française. Comment tolère-t-on ça ? Que font nos politiques ?
Parce que vous supposez que les autorités politiques servent le bien de la nation.
Bien sûr.
Mais c'est très naïf.
Ben, c'est peut-être très naïf, mais c'est ce qui...
Vous ne pensez pas que l'actuel gouvernement sert les intérêts de la France,
là, c'est ce pourquoi, normalement, ils sont élus et nous avons élus.
Je veux dire, vous n'avez pas remarqué qu'on est sorti de cette normalité ?
Mais je veux dire, bien sûr que je sais, mais vous ne prenez pas... Je ne suis pas né de la dernière pluie, quand même. Je veux dire par là qu'il est évident que ce ne sont pas les politiques guimauves aujourd'hui qui feront en sorte que la France redevienne la France. Ce ne sont pas ceux-là qui vont réformer l'État. Ce ne sont pas ceux-là qui vont prendre des mesures dérogatoires si nécessaire pour remettre de l'ordre. Ce ne sont pas ceux-là. Donc, on va peut-être en revenir, mais qui va le faire ?
Dernier chapitre de notre conversation. Hélas, elle est passionnante. Je suis très content de cette rencontre entre un diplomate et un général. Surtout sur la question des banlieues.
Il n'y a pas que les banlieues.
Bien entendu.
La jeunesse est partout.
Oui. Dernier quart d'heure plus politique. Xavier Driancourt nous disait tout à l'heure en s'installant que l'année prochaine, nous serons face à une échéance sans doute très grave. Il n'est pas impossible que Jean-Luc Mélenchon, grand agitateur des banlieues justement, devienne président de la République. Vous le pensez, Xavier Driancourt, c'est une possibilité, je le pense aussi. Et je le pense de plus en plus en voyant les campagnes, car je vis en Corrèze, et le désarroi est tel que n'importe quel démagogue peut emporter l'adhésion de gens qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils feront, mais qui voteront pour le plus coléreux, pour le plus colérique, pour celui qui passe pour le plus subversif. Ce n'est pas lui qui l'est le plus, à mon avis. Alors, je dis souvent, c'est comme le PSG. Quand le PSG gagne, les Champs-Élysées sont à feu et à sang dans les heures qui suivent. Quand le PSG perd, pareil. Bon. Eh bien, moi, je crois, et je vous interroge tous les deux là-dessus, qu'allons-nous faire ? Que si le PSG, c'est-à-dire la France insoumise, gagne l'an prochain l'élection, la France sera à feu et à sang, parce que je ne pense pas que la nomenclature n'a pas du tout, une partie des Français accepteront ce qui va derrière, et vous avez raison, les propos d'élus de Seine-Saint-Denis et d'ailleurs sont extraordinairement anti-républicains et très menaçants de ce point de vue-là, soit il perd, et je pense qu'il a une force de frappe telle pour être un mauvais joueur et pour secouer aussi le pays. C'est-à-dire que dans toutes les hypothèses, il y aura en mai ou juin prochain, c'est dans un an, une situation incontrôlable, pour dire les choses comme cela, dans le pays. Que faisons-nous ?
Je remarquerai simplement que vous faites une présupposition en disant qu'on ira à les élections l'an prochain.
Ah.
Rien n'est moins sûr. Je suis désolé de vous dire.
Avec la République, il faut s'attendre à tout.
Moi, je pense que rien n'est moins sûr. Voilà, pourquoi ? Parce que l'économie est exsangue, parce qu'il y a 3 000 milliards de déficit, etc., un trou énorme.
Ça n'a jamais empêché de faire des élections, quand même.
Il va falloir à un moment donné que les gens enfin, non, moi, je vois, comme vous, j'ai des gens avec qui je corresponds, et la situation est extrêmement difficile dans les campagnes, hein, et les gens, ils vivent mal. Donc, ça ne va pas durer éternellement comme ça. Ça, c'est le premier point.
Mais c'est pire que ça, je vous interromps. L'autre jour, j'étais à la caisse d'un supermarché, dans un petit village où je réside, en Corrèze, et je voyais beaucoup de monde. C'était il y a 15 jours, à la fin du mois de mai. Et je dis à la caissière, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a beaucoup de monde. Elle me dit, mais monsieur, on est le 29 mai. Ils ont touché la paye.
Ouais, bah oui.
Si vous voulez venir le 18 ou le 20 ou le 22 mai de chaque mois, il n'y a personne. Parce qu'ils n'ont pas d'argent.
Donc je ne suis pas certain.
France 2026.
Donc pour répondre à votre question, je ne suis pas certain qu'on attende un an pour avoir des élections. C'est le premier point.
Ah, parce que vous pensez qu'elles seraient anticipées.
Ou anticipées, ou peut-être pas d'élections.
Alors à ce moment-là, le pays est à feu à sang.
Je ne sais pas s'il est à feu à sang. Je vois les gens, je vois les Français aujourd'hui. Je ne sens pas les Français prendre des armes et se révolter. Enfin, je ne sens pas la révolte au bout de leurs mains. je vois des gens plutôt apathiques, fatigués, qui sont fatigués, qui attendent. Je crois.
Vous voyez, en 2017, on n'attendait pas les gilets jaunes.
Oui, mais ça a été c'est un épiphénomène d'une semaine quand même. Ça n'a pas été.
Ça a duré trois mois.
Non, ça a duré six sur Paris. Ça a duré une semaine sur Paris.
Ça a duré plusieurs mois. Vous avez raison. Vous avez
raison. C'est le 18 novembre et ça. Exactement.
Oui, mais ça n'a pas été malheureusement. Je ne sais pas si on peut dire si c'est le terme convient bien. C'est malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet.
Attendez, mais je crois qu'ils ont commis. Nous avons commis parce que j'en étais et j'avais prévu la catastrophe. Quand on occupait les ronds-points, ça marchait.
Très bien.
Quand on occupait et qu'on laissait passer les voitures, j'ai fait ça près de chez moi, j'habite à ce moment-là en Charente, qu'on laissait passer les voitures au péage, ça marchait et le pays était bien embêté. Quand on coupait quelques stations d'alimentation, d'approvisionnement, c'était très efficace. Et voilà que tout à coup, ne jamais refaire cette erreur, tout le monde s'est dit « on va à Paris ». Et on s'est foutu dans une nasse, il n'y a pas d'autre mot, les Champs-Élysées. D'ailleurs, il y a un moment où les choses étaient un peu chaudes. Malgré tout, il y avait un hélicoptère qui tournait autour de l'Élysée pour exfiltrer le président de la République si les choses tournaient mal. Enfin, il ne serait pas resté dans sa souricière. Mais à Paris, on s'est fait coincer à Paris. Si on coince, si on arrête la vie normale du pays à partir des ronds-points, à partir des points névralgiques dans les banlieues, départements français, que se passe-t-il ?
Mais je reviens à ce que disait tout à l'heure, il ne faut pas mésestimer l'adversaire. Donc aujourd'hui, comme vous venez de le dire, en ce qui concerne LFI, qui a une puissance, une puissance de frappe importante, que ce soit verbale, que ce soit verbale et puis imaginaire et puis photographique là sur partout. C'est effectivement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de répondants face à eux. Voilà. Alors, est-ce que pour autant, ils auront la masse l'an prochain, comme vous le dites vous-même. C'est un an, c'est long quand même. Donc,
Mais
il ne faut pas mésestimer. Il ne faut pas mésestimer l'adversaire.
C'est vrai, dire en cours.
Je pense que les commentateurs ou les journalistes ont tort de dire et de répéter sans arrêt que en cas de duel RN LFI, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il s'agit de lui, serait balayé sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que je pense que il peut y avoir un espèce de front républicain implicite. Tout le monde dit, tous les politiques aujourd'hui disent jamais on ne votera Mélenchon au deuxième tour, il est populiste, antisémite, etc. Mais on verra bien qu'il y aura beaucoup de gens, à commencer par les intellectuels ou appelés tels parisiens, les médias qui diront non en cas de duel RN et LFI, on ne peut absolument pas voter pour des fascistes, puisque c'est le terme. Et donc il y aura une sorte de front républicain implicite, non dit, qui se mettra en place, d'autant plus qu'il y aura ensuite des élections législatives, très probablement.
Oui, en juin.
Et que tous les parlementaires, y compris non seulement ceux qui foutent le bazar à l'Assemblée nationale aujourd'hui, mais ceux qui leur sont proches, verront leur siège en jeu le mois suivant.
Ça veut dire que vous écartez.
Et se diront, il faut faire des compromis. Si je veux être réélu dans un mois, il faut faire des compromis aujourd'hui avec.
Et donc, ça écarte donc dans votre esprit l'élection de Mélenchon.
Donc, je pense. Non, mais je pense que c'est pour ça qu'ils pourront se rallier à Mélenchon et faire sorte de front républicain
avec lui, pas contre lui. On ne le dira pas,
comme il y a eu il y a deux ans aux élections législatives, il y a eu le front républicain. Là, il y aura
avec
un
lui,
nouveau
oui.
front républicain, mais non dit, parce qu'on ne voudra pas trop se déjuger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'emploie une image, je dis que l'élection de 2027, c'est un peu la dernière sortie avant le péage.
Et, oui.
Et le péage, il sera lourd.
Et vous venez de parler justement ce front républicain. Regardez ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale.
Oui.
Pour le vote, et tout le monde, tous les socialistes, toute la gauche a rallié LFI finalement.
Oui, oui, oui.
Donc ils avaient la main sur le cœur il y a 15 jours.
Là, vous corroborez ce que Xavier Adrien.
Oui, tout à fait. Il y a 15 jours, il disait jamais avec LFI, jamais de la vie. Et là, Hollande le premier a rapproché. Donc, de toute façon, toute la gauche votera à votre ensemble.
Je pense qu'il y a une mobilisation à gauche qui se fait bien mieux qu'à droite.
Mmh. Oh, ça, depuis toujours, parce que la droite a oublié qu'il y avait deux tours. Ce n'est pas moi qu'il faut le dire. J'ai répété à Marine Le Pen 50 fois qu'il y avait deux tours. Peu importe le premier tour, si au second tour, on est capable de faire ce que la gauche fait toujours, c'est-à-dire bêtement l'union des droites. Alors, elle m'a rayonné jusqu'à... Je ne reviens pas sur ces épisodes malheureux, mais c'est vrai, la capacité de s'unir à gauche devient très dangereuse. Mmh. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
C'est rien, moi. Je
qui protège la France à ce moment-là ? D'un président Mélenchon auquel se rallieraient des politiciens au rancard, comme disait le général.
Oui.
Au rancard. Ce n'est pas les généraux au rancard.
Mmh. Un carteron de...
De politiciens. Et qui sont tous en retraite, de toute façon.
Oui.
Mais qui ne battent pas en retraite. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je n'exclus pas des situations largement subversives et des situations où l'ordre public est remis en cause. Il n'y a pas que les banlieues, mon général, qu'il faudra rétablir.
Non, mais c'est pas les banlieues. Les banlieues, comme j'ai écrit dans ce livre, je ne comprends pas qu'on n'ait pas résolu l'affaire depuis longtemps. Donc, s'il faut employer la force, il aurait fallu l'employer il y a 25 ans.
On peut toujours.
Oui, mais à qui ? Parce que j'avais dit à un policier, quel est votre degré d'encaisse ? C'est-à-dire, à partir de combien de victimes arrêterez-vous ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas des militaires, vous n'êtes pas payé pour mourir. Donc, regardez ce qu'on fait aux flics,
ils sont tirés à bout portant. Vous connaissez le nombre de morts de gendarmes et de policiers chaque année ?
Je ne connais pas, mais c'est peu.
Non,
c'est peu. C'est tout est relatif.
Et je mets de côté les suicides.
Hein. Ouais. Ah non, je ne parle pas des suicides.
Oui. Bah, c'est déjà un mauvais signe.
Je veux dire par là, dans une, parce que là, nos camarades gendarmes et policiers qui sont tués au cours du truc, c'est au cours des multiples manifestations et émeutes qui ont lieu. Moi, je vous parle de la reconquête. Si on vous dit aux policiers, demain, il faut remettre de l'ordre et on vous donne carte blanche pour y aller. D'accord, ils vont peut-être y aller, mais s'il y a 20 morts, s'il y a 20, 30 morts, parce que les autres... Dans leur rang.
Comment acceptent-ils de regarder des émeutiers, ça s'est encore passé sur les Champs-Élysées il y a 15 jours, dépaver des parties de l'avenue, en sachant très bien que ces pavés vont atterrir soit, dans le meilleur des cas, si je puis dire, dans des vitrines, soit sur leur figure. Et à ce moment-là, ils ne sont pas autorisés à intervenir.
Mais attendez,
alors qu'on dépave et qu'ils savent très bien qu'ils peuvent recevoir les pavés sur la figure une heure plus tard.
Vous prêchez un convaincu. Mais que font les chefs ? Que font leurs chefs ? Comment se fait-il que je vous parle crûment. Comment se fait-il moi j'ai commandé des hommes au feu, je veux dire par là que je prenais mes responsabilités. D'accord ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui des généraux commandants de gendarmerie, des commissaires principaux, etc., tolèrent que leurs troupes soient, j'allais dire, visées à bout portant pour être flinguées ?
18 juin, c'est l'anniversaire de désobéissance.
À ce moment-là, vous posez le képi, vous dites, monsieur le ministre, on arrête.
D'une désobéissance.
J'attends ça. Alors toujours, tu diras, on est tiré, on est ceci, on est... Ah, mais tiens, les mecs, posez le képi.
Très bien.
Et puis attendez, et puis dites ça au ministre, et vous allez voir que les choses ont changé, parce que là, il va falloir y aller, quoi.
Je vous vois bien pensif, mon cher Xavier Driancourt.
Je connais insuffisamment ces questions de maintien de l'ordre, donc je ne peux pas, je n'ai aucune légitimité à m'exprimer. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est aussi tout l'environnement juridique, administratif, jurisprudentiel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui. Ce que vous décrivez là, c'est aussi parce que il y a la crainte que des juges se prononcent sur l'utilisation de la violence, sur le recours à des armes à feu, sur le fait que vos actions ne sont pas légitimes et donc pas légales. Donc il y a tout un environnement juridique et jurisprudentiel aujourd'hui qui quand même paralyse beaucoup l'action des administrations.
Vous avez totalement raison,
c'est ça.
Mais il va falloir peut-être revenir là-dessus. Moi, je ne comprends pas. Je suis quelqu'un de simple. Regardez ce qui s'est passé il y a 3 ans pour le Covid. On a mis en cellule 65 millions de Français en 24 heures, personne ne trouvait à redire. Personne n'a trouvé, n'a trouvé quoi que ce soit à redire. Aujourd'hui, on n'est pas fichu. On n'est pas fichu de prendre un texte de loi qui, en 24 heures, impose dans telle banlieue l'emploi des armes pour nos policiers. Vous voyez ce que je veux dire? On est complètement paralysé, comme vous venez de le dire, par tout ce magma magma de trucs qui ont été. Mais je vous dis, on n'a pas de chef. Voilà.
Alors, hélas, trois fois hélas, cette émission touche à son terme. Mettons-nous d'accord tous les trois pour dire que nous devons nous mettre en situation d'attendre l'inattendu.
Ah, il faut toujours être...
Attendre l'inattendu. C'est comme ça que se fait l'histoire. Dernière sortie avant le péage. C'est comme ça que se fait l'histoire. Alors, et en attendant, donc, comment refaire nation, les solutions du général des banlieues? Emmanuel de Richouf, j'espère que vous aurez...
Édition Maya. N'hésitez pas à aller nombreux, parce que...
présence Radio Courtoisie, davantage que ces dernières années. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je compte beaucoup sur votre voix claire, nette, précise, valeureuse, celle qu'on attend d'un général.
Tous les gens me disent, mais si personne ne bouge, vous voyez ce que je veux dire? Si on restait apathique, tous les anciens généraux restent apathiques, tous les anciens policiers restent apathiques, je leur dis. Mais
la deuxième section ou peut-être de la première.
Il faut peut-être se bouger, quoi, je veux dire. On a les hommes et les femmes, je veux dire, les compétences un peu partout dans ce pays qui demandent qu'à jaillir.
Bon, revenez-nous du gros du roi où il se passe beaucoup de choses. Il y a quelques jours, on a déploré un assassinat devant vos fenêtres d'une vieille dame.
Oui, une vieille dame. Et vous savez que le gros du roi, ça fait partie de lui, parce qu'il y a quelques années, il y avait le grêlé. Vous souvenez l'affaire du Grélé, c'était le gros du roi aussi.
C'est aussi le gros du roi.
Décidément.
Vous êtes aux avant-postes. merci Xavier Driancourt, vous avez table ouverte dans cette émission, vous le savez, et peut-être qu'un jour vous viendrez nous parler davantage de livres qui paraît ces jours-ci. Bon livre d'été avec de belles illustrations sur l'Algérie, ce problème grandissant. Le livre s'appelle L'Algérie, justement, 1830-2026. Mais l'affaire n'est pas terminée. Vérités et légendes. Saluez Boualem Sansal, que nous avons connu l'un et l'autre, et que je serai heureux de revoir à l'occasion. J'ose pas le solliciter. Il va bien?
Oui, il va bien. Oui.
C'est un proche ami.
En forme. Donc maintenant,
c'est
il revit.
Un grand ami pour vous.
Il revit. Oui, je le connais depuis 15 ans maintenant.
Très bien. Merci, chers auditeurs, à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, Domine Sanctam Fac Galliam.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 17 juin de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€. Ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.